Des poches sous les yeux, l'interview, dans le cadre du Salon de littérature jeunesse.
Bonjour Jérémy Bouquin, merci à toi d'avoir accepté de nous consacrer quelques minutes de ton temps. On t'imagine très occupé, tant sont nombreuses tes activités, puisqu'on a pu voir que tu étais à la fois réalisateur de courts et moyens-métrages, auteur de romans policiers, parmi lesquels Printemps de Barge, Règlement de compte, Chasse à Tours, pour n'en citer que quelques-uns. Tu es également auteur de nombreuses nouvelles, scénariste de BD, Le Privé, animateur radio. Quelle radio d'ailleurs ?
Là, c'est sur Campus en ce moment.
Ah, d'accord, Radio Campus. Et tu dis que ton vrai métier, d'après nos sources, c'est d'être coordinateur jeunesse. Tu nous en diras peut-être quelques mots tout à l'heure. Et tu es également le président de l'association Tourangelle Les Tontons Filmeurs. Et là, tu es à l'honneur pour cette nouvelle quinzaine du livre jeunesse pour ton roman Le Croque-Mitaine, publié chez Oscar Éditeur en octobre 2014. Alors moi, j'ai envie déjà de commencer par poser une première question qui n'a rien à voir avec le roman Croque-Mitaine. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'association des Tontons Filmeurs ?
Alors, en ce moment, je ne suis plus président des Tontons Filmeurs, c'est pas grave. Les Tontons Filmeurs, c'est une association qui existe depuis 2001, qui est avant tout une association d'éducation populaire où des réalisateurs, des monteurs, des comédiens, etc. sont réunis ensemble pour essayer de faire des choses ensemble. Alors au début, c'était beaucoup de documentaires autour des spectacles de rue. Puis peu à peu, on a dérivé vers la fiction, on a dérivé vers des ateliers pour les enfants, on fait du court, on fait du long, on a fait du documentaire, on a suivi entre autres la campagne des législatives, la dernière campagne des municipales. Bref, c'est une association qui est bien ancrée sur le territoire et entre autres qui est connue pour projeter des films sur la guinguette de Tours et la guinguette de Saint-Ave.
Alors, tu viens d'éditer un polar, Un train d'enfer, qui est plutôt destiné à un public adulte et qui a fait l'objet assez récemment d'un article dans La Nouvelle République. La plupart de tes romans sont des romans policiers. Et pourquoi l'écriture de romans policiers a-t-il ta préférence ?
Parce que c'est ce que je lis au quotidien, c'est ce que j'aime, tant au cinéma qu'à l'écrit. Et puis, je trouve que c'est une écriture qui est spontanée. En plus, ça peut être du roman social. Enfin, c'est à la fois une écriture souple, grand public, populaire. Voilà, la lecture, c'est une distraction avant tout.
À l'occasion de la quinzaine du livre, on a découvert que tu écrivais aussi à destination d'un public plus jeune. Ton livre Croque-Mitaine a été effectivement sélectionné par le comité de lecture de la quinzaine du livre. Est-ce que c'est ton premier livre destiné à un public jeunesse ?
Alors, j'ai tenté plusieurs. C'est le premier qui a été édité. C'est un exercice qui est particulièrement compliqué et qui plus est, je suis très très fier d'être sélectionné à cette quinzaine parce que j'y viens assez régulièrement et je suis assez friand de leur sélection. Mais non, c'est le premier qui a été édité. C'est un exercice qui est particulièrement compliqué, l'écriture pour les ados, je trouve.
Ah, et pourquoi ?
C'est une écriture qui doit convenir à un éditeur qui pense connaître les ados. Enfin, c'est particulier, je trouve, selon l'éditeur, selon le danger qu'on peut, qui peut prendre. On peut parler de tout, de tout et de rien, mais en plus, les ados, c'est pas vraiment des adultes. Les ados, c'est quoi pour un éditeur ? Est-ce que c'est forcément un enfant qui a 14 ans ? Est-ce que c'est forcément un jeune adulte ? On sait qu'en plus, il y a beaucoup d'adultes qui lisent de la littérature jeune adulte. C'est particulièrement compliqué, je trouve, de cibler ce public-là.
Oui, je voulais savoir, moi, si ta profession, entre guillemets, de coordinateur jeunesse, puisque je ne sais plus où je l'ai lu dans l'article de l'ANR, je crois, a-t-il orienté justement ton choix de te mettre à écrire à un moment donné pour des ados ?
Oui et non, pas forcément. J'avais envie de me frotter à l'exercice depuis longtemps, parce que je lis de la littérature pour ados. De là à dire que c'est lié à mon métier, non. Et c'est en plus c'est plus ennuyeux parce que je connais les ados, je travaille avec eux, j'ai travaillé avec eux, maintenant je travaille un peu moins avec eux. Et je sais que déjà l'ado lit pas beaucoup, en règle générale, enfin ceux que j'avais. Qui plus est, en plus, c'est des publics qui, quand ils lisent beaucoup plus de la littérature pour adultes que de la littérature pour ados. Et que ce qu'on qualifie comme ados, la plupart du temps, ils ont dans la littérature, ils ont plus 10, 11, 12 ans que 14 ans, comme c'est écrit derrière la couverture. Donc c'est particulier, mais non, mon métier ne m'aide pas à écrire de la littérature pour ados.
Et alors, du coup, il y a l'esprit deux questions. D'abord, coordinateur jeunesse, c'est quoi?
Alors, je coordonne des équipes d'animateurs jeunesse qui interviennent sur une communauté de communes à direction d'un public 14-17 ans. Donc, qui sont vraiment en contact avec des publics qui s'ennuient ou qui veulent monter des projets. Et c'est le cœur de métier à l'origine, c'est l'animation jeunesse.
D'accord. Et l'autre chose qui me vient à l'esprit en t'écoutant aussi, c'est du coup, est-ce qu'il n'y a pas un malentendu entre ce que veulent les maisons d'édition, dites pour jeunesse ou pour ados en l'occurrence, et finalement ce qu'attend le public, enfin le lectorat ado?
Alors, je pense que les maisons d'édition traduisent peut-être plus ce qu'entendent les parents comme autorisés à lire, enfin ce que pourraient lire les ados, enfin ce qu'ils autorisent à lire. Grosso modo, un parent qui sélectionnerait des livres ou des ados qui sélectionneraient des livres, quasiment sûr que le filtre de l'éditeur ressemblerait au filtre du parent. Donc il y aura peut-être moins de danger qu'à aller lire des livres qui pourraient plus les mettre en danger. Après un 14-17 ans, c'est un bachelier hypothétique. Un bachelier hypothétique lit au programme du bac des livres qui sont beaucoup plus... enfin, adultes, on va dire, beaucoup plus classiques. Donc... Non, pour moi, le filtre de l'éditeur, c'est le filtre parental.
Ouais. Alors, Croque-Mitaine, ton roman jeunesse, c'est un roman d'anticipation, mais d'abord, c'est quoi un croque-mitaine? Parce que justement, c'est pas un vocabulaire qui est encore très employé aujourd'hui. Et voilà, je pense que pour des jeunes ados, c'est peut-être pas le mot qui va tout de suite faire tilt, quoi.
Tout à fait. C'est vrai que ça fait désuet, ça fait un peu vieillot, croque-mitaine. Mais ça attire quand même beaucoup de fantasmes. C'est-à-dire que déjà le nom croque, enfin, qui bouffe, qui fait du bruit en plus en mangeant. Enfin, il y a quelque chose qui malgré tout chatouille un petit peu le fantasme des gamins. Et nécessairement, ça peut leur dire, tiens, qu'est-ce que ça peut être? En plus, l'éditeur a fait une superbe couverture, ce qui est quand même assez avantageux pour le livre. Mais non, ouais, c'est désuet. Pour moi, c'est l'univers avant tout du méchant ultime qui se cache derrière tout le bon gentil qu'on a. Et ce qui est quand même de plus intéressant dans le polar et ou dans l'Uchronie, ça reste quand même le méchant. Donc décrire l'hypothétique méchant, c'est intéressant, surtout que y en a beaucoup des méchants dans ce bouquin.
Ce livre, il traite du don d'organes, hein.
Ouais.
C'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, hein.
Alors il parle pas vraiment du don d'organes, parce qu'on donne pas, on oblige. Oui, le don d'organes me tient à cœur. C'est important que les enfants, ados, adultes, on s'en fout qui, mais prennent conscience que des vies peuvent être sauvées au moment où on peut perdre la sienne. Donc c'est important qu'il y ait une vie prolongée quand on est arrivé à la fin de la nôtre, et c'est important aussi de l'anticiper dans sa vie courante en se disant voilà, c'est une petite carte de glisser dans un portefeuille. Tout le monde sait. On sait qu'on peut potentiellement, un moment ou un autre, prolonger la vie de quelqu'un. Donc oui, il faut donner ses organes. Alors après, de là à dire qu'il faut les prélever sans l'avis de la personne, là c'est autre chose.
D'ailleurs, à ce sujet, j'ai pu lire il y a quelques années un bouquin de Kazuo Ishiguro qui parle exactement de ce sujet également. Enfin, voilà, ça fait très écho à ce livre que j'ai lu il y a quelques temps.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, ce n'est pas du tout le thème qui était dominant pour moi quand j'ai lu le roman. Pour moi, ce n'est pas un roman sur le
don d'organes. C'est la chute, c'est... Au début, je voulais en faire un bouquin très social, ça veut dire contre le capitalisme, le pire qui puisse exister, parce que ces internes, quand ils s'enfuient, découvrent un monde où il n'y a plus d'État, il n'y a plus de sécurité, où il n'y a plus rien, et on peut même vendre des organes d'enfants, donc des frigos. Et d'ailleurs, on les appelle des copyrights, des copies, des vulgaires copies, et on les considère comme telles. C'était avant tout pour moi travailler sur le capitalisme, jusqu'où on peut aller, peut-être jusqu'à vendre des êtres humains, copier des êtres humains, cloner des êtres humains, etc.
La dimension sociale, elle apparaît aussi quand tu parles de la... Moi, ça m'a frappé sur la précision sur le bio, où un des personnages demande si c'est du bio. Tiens, pourquoi cette parenthèse sur l'alimentation bio? Ça te tenait également à cœur de...
C'est assez intéressant de voir que... quand on veut constituer un quand on est riche et qu'on veut se protéger, on va utiliser une alimentation variée, etc., pour même ses propres victimes. Enfin, c'est assez étrange, cette prédominance à chouchouter son copyright, son cheptel. Je pense que tout riche qui se respecte ne nourrisse pas leur chat où il se casse. Ils le nourrissent avec de la viande qui sort de chez le charcutier, etc. Et c'est horrible, parce que jusqu'à quel point on est capable, pour se préserver soi-même, que d'anéantir les autres, enfin de faire attention aux autres pour enfin les anéantir.
Il y a une question aussi, moi, un point qui m'a intriguée en lisant le roman, c'est qu'à plusieurs reprises, tu fais référence aux lectures des personnages. Ils lisent des contes de fées, ils lisent de la bande dessinée, donc ils ont accès à la lecture. On ne sait pas trop quel type de conte de fées ni quel type de bande dessinée. Et je me suis dit, comment pourront avoir accès à la lecture? Ils peuvent continuer d'être aussi ignorants sur ce qui se passe de l'autre côté du mur. Ça, c'est un truc qui m'a...
Ah bah après, en projetant des ombres tout au long de la journée, qui osera sortir de la caverne? La lecture, l'écriture, etc. reste un miroir de ce qu'on souhaite donner ou distiller. Je reste persuadé qu'on a beau avoir lu tout un tas de livres, avoir vécu tout un tas de choses, on ne fait que reproduire au quotidien les pires hégémonies, etc. Enfin, notre accès à la culture prépondérante, à la télévision, aux documentaires, à l'information, etc., ne nous arrête pas dans notre connerie permanente. Hein.
Je pensais à un album jeunesse, notamment, puisqu'on est dans le cadre de la quinzaine du livre jeunesse, un album de Angel Esteban où il parle, ça s'appelle Le Mur. Justement, les deux personnages longent un mur, ils ne savent pas du tout ce qu'il y a de l'autre côté, mais pas du tout, du tout. Et là, j'étais étonnée parce que finalement...
Ça se fantasme, tout ça. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas allé au Japon, on peut qu'imaginer le Japon, mais pour autant, on peut pas imaginer ce que ça peut être. On peut le voir, on peut l'avoir vu dans des documentaires, etc., mais ça n'apporte pas non plus le choc qu'on peut avoir en descendant de l'avion. C'est pas parce que tu lis ou que tu vis quelque chose ou que tu le fantasmes que pour autant, tu peux imaginer ce que ça fait d'arriver en plein milieu de l'Afrique du Sud.
Lorsque tu écris, est-ce que tu as justement, apparemment, tu as un petit peu répondu quand même, est-ce que tu as constamment l'âge de ton lectorat, je parle pour les romans jeunesse, est-ce que tu as constamment l'âge de ton lectorat potentiel à l'esprit?
Et quel est l'âge que tu imagines être celui du lectorat de ce livre, après tout?
Pour répondre à la deuxième question, j'espère que ce n'est pas 14 ans. J'espère que c'est bien avant, parce que je pense qu'un lecteur à 14 ans, il a dépassé ce cap-là. Après, j'espère que si c'est à 14 ans, que c'est parce que j'ai privilégié un format court pour permettre aux jeunes qui n'aiment pas lire et d'avoir envie de lire un livre qui, avec des phrases courtes, avec... Enfin voilà, qui est accessible, c'est pas compliqué. Comme pour n'importe quel livre, on imagine le lecteur auquel on parle. Enfin moi, je veux vraiment m'adresser à un lecteur qui n'a pas forcément l'habitude de beaucoup lire, avec des mots qui peuvent lui parler rapidement, avec une chute. Ça veut dire à la fin du livre, on se dit, ah ben tiens, ça j'y avais pas pensé. Faut que ça soit... Que ça soit plaisant et agréable. Enfin voilà, je fais pas de la littérature blanche, difficile. Enfin moi je me vois mal faire ça, déjà. Voilà.
Alors justement, on dit qu'aujourd'hui les jeunes ne lisent plus, ils préfèrent Internet, la télé. Pourquoi écrire pour la jeunesse et surtout pour donner envie aux lecteurs de lire ton livre? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire en quelques mots pour aiguiser leur curiosité?
C'est super compliqué d'envisager une lecture. Enfin, oui, les jeunes lisent moins, enfin je pense. Après, je n'ai pas non plus une science infuse. Je vois juste ce que nous ont sorti les sites internet il y a peu de temps sur le nombre de lecteurs qui diminue de plus en plus, etc. Je pense que les adultes en général, les gens lisent moins. Pour autant, ils vont sur internet où le support de lecture est tout aussi important. Enfin, il y a beaucoup à lire aussi sur internet. Maintenant, c'est un plaisir. C'est un plaisir, et comme tous les plaisirs, ça s'éduque. Enfin, on apprend à prendre plaisir, on apprend à trouver du sens. Moi, j'ai aimé lire grâce aux bandes dessinées. Pourtant, je suis un enfant de lecteur. Enfin, mes parents étaient très, très lecteurs. C'est la bande dessinée qui m'a donné envie qui m'a fait donner plaisir à lire. C'est les nouvelles. Frédéric Braun, c'est un auteur américain qui écrit des centaines de nouvelles en 3-4 pages. Ça, ça donne envie de lire. Donc je reste persuadé que donner accès, donner envie de lire, se dire voilà, on fait une lecture plaisir et on a une histoire qui nous parle vite et qu'on va avaler vite, ben c'est intéressant. Donc pour donner envie de lire ce bouquin à des jeunes, ça, c'est juste leur dire que c'est l'histoire de gamins comme eux, à l'internat, qui ont 14-15 ans, qui ne rêvent qu'à sortir de cet internat et découvrir ce qu'il y a derrière, et ça ressemblera peut-être pas forcément à ce qu'ils ont envie de voir. Et derrière, ben, ça parle de ce qu'ils sont au quotidien, donc avec des copains, des envies, des besoins, envie de se moquer, envie de se marrer ensemble. Et puis à un moment ou à un autre, il y en a un qui prend une décision de partir, enfin qui souhaiterait partir et qui malheureusement se retrouve dans un coffre de bagnole, dehors, dans un coffre de bagnole.
Eh bien, il
n'y
a plus qu'à lire maintenant.
C'était l'interview des poches sous les yeux. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousles yeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.